Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chères femmes et bien, chers amis, nous en sommes toujours au chapitre 1er de l'Évangile selon Saint Luc, au verset 27. Sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église sur les chapitres 1 à 5 de Saint-Luc, nous en sommes à la page 8, en haut de la page. C'est toujours ici le commentaire du verset 27 du chapitre 1er de Saint-Luc. Donc l'ange Gabriel envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge mariée à un homme de la maison de David nommé Joseph et le nom de la vierge était Marie. Donc on a déjà insisté sur le fait qu'il faut bien se garder de traduire desponsata par fiancée, mais la très sainte Vierge Marie était mariée à Saint Joseph même si s'ils ne vivaient pas ensemble, pas encore. Alors nous en sommes dans les commentaires des pères qui analysent les sens allégoriques qu'on rencontre déjà à partir du nouveau de l'Ancien Testament. Donc les pères ont déjà expliqué, par exemple, comment notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ était déjà figuré par Abraham, prêt à immoler son fils Isaac. Il y a d'autres symboles à la fois de l'incarnation et de la rédemption. Par exemple, la pierre au milieu du désert qui va être frappée par Moïse pour abreuver le peuple hébreu qui meurt de soif dans le désert, le peuple et les troupeaux. Et donc Moïse va frapper la pierre et de cette pierre qui représente le Christ va sortir une rivière d'eau qui va pouvoir abreuver tout le peuple. Cette pierre qui est frappée par Moïse ne représente pas seulement notre Seigneur Jésus-Christ, mais représente aussi la très sainte Vierge Marie. Elle représente donc l'incarnation. Pourquoi? Parce que de même que du sein très pur de la très sainte Vierge Marie va sortir celui qui va donner la grâce au monde, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, de la même façon, cette eau va sortir du rocher au milieu du désert. Et de même que normalement l'eau ne peut pas sortir d'un rocher en plein désert, de la même façon normalement un être humain ne peut pas sortir d'une vierge. Et c'est pourtant ce qui va se passer avec la très sainte Vierge Marie. C'est pour cela que l'eau qui sort en plein désert représente aussi la très sainte Vierge Marie, donc le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Voilà ce que disent les pères. Le Christ est figuré dans cette pierre qui suit le peuple et lui donne au milieu du désert une eau abondante. Il est aussi attendu et figuré en Aaron, qui en élevant le serpent d'airain arrête la mort causée par la morsure des serpents, et se tenant entre ceux qui ont été frappés et ceux qui pourraient l'être, empêche la mort de passer des uns aux autres. Vous connaissez sans doute ce passage dans l'Ancien Testament, donc le peuple hébreu se révolte contre Moïse, contre Dieu en fait. Et pour les punir, Dieu va faire sortir des sables brûlants, des petits serpents mortels qui vont piquer les Juifs errant dans le désert et provoquer beaucoup, beaucoup de morts. Alors évidemment, dans ce cas-là, comme à chaque fois, le peuple hébreu demande pardon à Moïse, demande pardon au bon Dieu. Et Dieu dit à Moïse de placer sur un poteau au centre du camp un serpent d'airain et que tous ceux qui regarderaient avec Avec foi, ce serpent d'airain serait guéri des morsures des serpents. C'est évident que ce serpent d'airain sur le poteau au centre du camp représente la croix du Christ. La croix du Christ qui est déjà présente, attention, dans le mystère de l'incarnation. Il ne faut pas séparer complètement les mystères. Il y a une union entre les trois grands mystères, la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption. On ne pourrait pas avoir l'incarnation sans la Sainte Trinité, on ne peut pas avoir la rédemption sans l'incarnation. Donc les trois mystères sont unis. Donc c'est le propre du Christ, disent les pères, d'être auprès de son père, l'avocat des peuples. D'offrir sa mort pour tous, de vaincre la mort et de donner une vie nouvelle à ceux qui devaient périr. Voilà pourquoi l'eau qui sort du rocher représente cette vie nouvelle. Parce que sans eau, la vie est impossible dans le désert. Donc l'eau permet le retour à la vie. Le peuple est en train de mourir de soif, les animaux, les troupeaux sont en train de mourir. Et Moïse qui vient frappe le Christ, frappe le côté du Christ, c'est-à-dire la pierre. Il va frapper la pierre avec son bâton. Le bâton représente la croix. Et cette eau qui sort, qui jaillit du rocher en plein désert, représente le Sacré-Cœur qui s'ouvre sur la croix. Voilà pourquoi les pères font remarquer que le Sacré-Cœur est ouvert sur la croix, et pas simplement percé. Alors, le Christ est attendu et figuré. En Jésus également, le fils de Navé, en effet, il porta le nom de Sauveur et en accomplit les fonctions. Donc on voit encore une fois dans l'Ancien Testament, à nombreuses reprises, des symboles, des allégories qui représentent le Christ qui va arriver. Le peuple hébreu dans l'Ancien Testament devait être sauvé en la foi au Christ à venir. Aujourd'hui, on est sauvé en croyant aussi au Christ qui est déjà venu. Mais dans l'Ancien Testament, notre Seigneur n'est pas encore venu. Donc les Hébreux seraient sauvés par une foi en quelque chose qui n'est pas encore là. D'ailleurs, c'est le propre de la foi. On n'a pas la foi en quelque chose qu'on voit, on a la foi en quelque chose qu'on ne voit pas, en quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Au moins au sens propre du mot foi. Bon, on a aussi en tant que catholique aujourd'hui, en 2020, la foi en, par exemple, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une chose qui est déjà arrivée. Cependant, n'oubliez pas, je vous l'ai déjà expliqué, qu'au ciel, la foi n'est pas nécessaire. De même, l'espérance ne sera pas nécessaire au ciel. On n'a pas besoin d'avoir la foi, croire en quelque chose qui sera devant nous. Notre Seigneur Jésus-Christ sera dans toute sa gloire devant les élus du ciel. Donc la foi et l'espérance ne sont pas nécessaires au ciel, alors qu'au contraire, la vertu de charité, elle demeurera. Donc c'est le Christ qui amène son peuple dans la vraie terre de promission, la terre promise. Il fait rebrousser les fleuves, il arrêta le soleil jusqu'au plein achèvement de sa victoire. Il fut préfiguré par Élisée, donc voilà encore d'autres symboles, dont le tombeau et le contact de ses ossements ramenèrent subitement à la vie un mort qui était déposé. Ainsi, Jésus de sa mort nous donne la résurrection et descendu au tombeau, il crée notre vie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ qui sort victorieux du tombeau de Jérusalem le jour de Pâques, le matin de Pâques, est représenté aussi par Moïse qui frappe la pierre au centre du désert, au milieu du désert, pour en faire jaillir l'eau qui donne la vie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est la vie nouvelle qui rattrape la mort qui avait été amenée dans le monde par la prévarication d'Adam et Ève. Donc Jésus donne cette vie par sa résurrection. Il est figuré aussi en Jonas. De la même façon, si vous voulez, on retrouve toujours les mêmes symboles. Jonas qui sort victorieusement, vivant, de l'estomac du cétacé qu'il a avalé, représente, après 3 jours, dans le ventre du poisson ou de la baleine, eh bien, ces 3 jours dans le sein de la baleine représentent plutôt quelque chose qui va arriver plus tard, à savoir les 3 jours de notre Seigneur Jésus-Christ au tombeau. Donc Jonas, exposé à la tempête et jeté à la mer pour protéger le navire, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu s'exposer aux tempêtes de ce monde est semblable à la violente tempête qui a assailli Jonas sur son vaisseau. Voyez, ce qu'on appelle le sens allégorique de l'Écriture sainte, c'est-à-dire des passages de l'Ancien Testament représentent des passages qui vont arriver dans le Nouveau Testament. Jonas accepte de mourir car la mort, dit-il, lui sera meilleure que la vie. Mais Jésus dira cette parole avec plus de vérité car sa mort à lui sera le salut de tous les peuples. Comme Jonas dans le sein de la baleine, Jésus demeure vivant dans le sein de la mort. Comme la baleine reçut l'ordre de rejeter Jonas vivant sur le rivage, la mort, ce monstre mystérieux et famélique, reçoit l'ordre de rendre Jésus plein de vie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ sort du tombeau vivant comme Jonas est sorti du ventre de la baleine. Autre symbole, ici je reprends certains des écrits des pères de l'Église, quand on écrivait en tête du livre que Dieu forma Adam, son épouse, pour lui être une aide, c'est de Jésus que cela était écrit. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est le nouvel Adam. De même que le premier Adam va amener le péché dans le monde, donc la mort dans le monde, le nouvel Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, va effacer les conséquences du péché du premier Adam. Donc c'est de Jésus qu'il est question quand Adam disait de son épouse, elle est l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc c'est pas simplement Ève qui est représentée là, mais aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Donc au témoignage de saint Paul, c'était le mystère de l'union du Christ et de son Église qui était là préfiguré. Oui, on retrouve ce même symbole de l'ouverture du rocher dans d'autres passages de l'Ancien Testament qui sont magnifiques. Par exemple, l'arche de Noé qui est ouverte sur le côté pour que la vie puisse en sortir. C'est la même chose avec le Sacré-Cœur sur la croix. De ce Sacré-Cœur ouvert sur la croix va sortir le sang et l'eau qui représentent la grâce sanctifiante et le mystère de la Sainte Eucharistie. Donc c'est pourquoi il est proposé aux époux en exemple l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Donc Dieu a aimé son Église comme l'époux doit aimer son épouse. Donc de même que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour son Église ne peut être détruit, de la même façon tant que dure la vie temporelle, la vie d'ici-bas, l'amour des époux entre eux doit perdurer. Alors il ne faut pas oublier que si l'époux doit aimer son épouse comme Dieu a aimé son Église, il faut mettre entre les deux époux le symbole de cet amour. Comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il prouvé qu'il aimait son Église ? Il a aimé son Église en mourant sur la croix pour son Église. De la même façon, l'époux doit prouver son amour à son épouse en abandonnant sa volonté propre dans bien des circonstances pour justement prouver à son épouse qu'il l'aime plus que lui-même. Nous sommes en effet les membres du Christ, nous sommes de sa chair et de ses os. Comme Adam avait dit à son épouse, elle est l'os de mes os et la chair de ma chair. Peut-il y avoir un salut plus assuré que d'être avec le Christ ? D'être dans l'unité de son corps. Il n'y a plus alors ni la tâche, ni la déviation du péché, cette vie d'hostie, Jésus la commence dans la Vierge. Le cœur de la Vierge est le premier autel sur lequel Jésus a offert son cœur, son corps et son esprit en hostie de louange perpétuelle. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ va commencer sa vie sacrificielle dès son arrivée dans le cœur immaculé de Marie. Le 25 mars, lorsque notre Sainte Vierge Marie donne son fiat, son acceptation pour devenir la mère de Dieu, au moment précis où l'enfant Jésus, tout petit, s'incarne, Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'incarne dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie, à cet instant même, déjà, notre Seigneur Jésus-Christ devient grand prêtre. Il devient grand prêtre en tant qu'homme. Donc, il commence sa vie de sacrifice dès son arrivée dans le sein de sa mère. Et c'est ce mystère de l'union du Christ et de son Église qui est préfiguré là. Donc de même que notre Seigneur Jésus-Christ est uni comme bébé au sein de notre Sainte Vierge Marie par le cordon ombilical, qui est nécessaire à cette union entre la très sainte Vierge Marie et le Fils de Dieu. De la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ et son Église doivent être unis constamment par ce même cordon ombilical. Donc la très sainte Vierge Marie, qui va donner la vie à son Fils dans son sein, en le nourrissant de son sang pendant 9 mois, représente aussi cette vie que la très sainte Vierge Marie va donner à l'Église, puisque l'Église est le corps mystique du Christ. Et de la même façon que Notre-Dame est mère du Christ incarné, de la même façon, Notre-Dame est aussi mère du corps mystique de son Fils, qui est l'Église catholique. Elle est donc non seulement mère de Dieu, mère du Christ, mais également mère de l'Église, Mater Ecclesiae. J'aime bien cette phrase des pères. Le cœur de la Vierge est le premier autel sur lequel Jésus a offert son corps, son cœur, son esprit en hostie de louange perpétuelle. Donc il faut méditer là-dessus, cette union extraordinaire qui devait exister entre notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sainte Mère. Il y a une union qui est très très mystérieuse là. Imaginez un peu l'union déjà qui devait exister entre le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et le Cœur Immaculé de Marie pendant ces 9 mois de grossesse. C'est quelque chose qui est tellement inconcevable qu'il faut le méditer. La très sainte Vierge Marie, elle est l'intermédiaire qui donne l'humanité à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, puisqu'elle est mère de cette humanité, la très sainte Vierge Marie va souffrir avec son Fils des sévismes contre son humanité. Pendant la Passion, il n'y a pas de sévice contre la divinité, puisque la divinité est incorruptible. Par contre, le péché et les sévices des bourreaux sur notre Seigneur Jésus-Christ vont attaquer l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas sa divinité, encore une fois, qui est incorruptible. La divinité est incorruptible, mais pas l'humanité. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est une humanité corruptible, mortelle, corruptible dans le sens qu'elle peut voir la mort, et c'est exactement ce qui va se passer. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ, tout en restant Dieu, a dû prendre l'humanité, la nature humaine, afin de pouvoir mourir sur la croix, parce qu'en tant que Dieu, il ne pouvait pas mourir. Donc ce n'est plus un peuple que l'on dénombre, c'est tout l'univers, car tous les hommes sont invités à faire partie du peuple du Christ. L'âge n'y fait rien, les enfants encore au berceau peuvent devenir des membres de ce peuple. Ici il y a des textes magnifiques de Saint Ambroise, l'archevêque de Milan. Saint Ambroise, je vous rappelle, c'est celui qui a converti Saint Augustin. Donc voilà ce qu'il dit. Sur ici des textes que j'ai trouvés encore une fois chez les pères de l'Église. Jésus s'est fait petit enfant afin de faire de vous un homme parfait. Il devient tout petit pour que l'homme puisse devenir grand. Rappelez-vous la phrase de saint Augustin que je vous cite souvent, l'homme, le Dieu devient homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Donc l'homme, Dieu, se fait tout petit pour amener l'homme, malgré sa petitesse à cause du péché, à la grandeur de la résurrection. Donc Dieu se fait tout petit comme homme, et non seulement il se fait tout petit comme homme, mais il devient minuscule dans le sein de notre Sainte Vierge Marie. Lorsque notre Sainte Vierge Marie a dit son fiat, notre Seigneur s'est incarné comme une tête d'épingle, littéralement, comme le début de sa conception dans le sein de notre Sainte Vierge Marie, comme une tête d'épingle, et bien cette tête d'épingle est le sauveur du monde, le rédempteur du genre humain. Donc, notre Seigneur a été enveloppé de l'ange afin que vous fussiez délivrés des liens de la mort. Vous voyez, il y a tous ces magnifiques comparaisons des pères de l'Église qui font marquer, par exemple, que de même que la très sainte Vierge Marie a reçu envelopper son fils premier-né de l'ange dans la grotte de Bethléem, de la même façon, elle recevra le corps de son fils 33 ans plus tard dans les langes, les nouveaux langes qui sont représentés par le linceul de Turin au pied de la croix. Et c'est l'ange qui empêche notre Seigneur Jésus-Christ comme bébé de bouger, était emmailloté et dépendait totalement de la très sainte Vierge Marie, représente aussi les liens de la mort qui sont déliés par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il s'est mis dans la crèche afin de pouvoir vous amener à ces autels. Pourquoi? Parce que la crèche Et le premier autel de notre Seigneur Jésus-Christ, plus exactement, le premier autel de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le cœur immaculé de Marie. Mais le deuxième autel, immédiatement après le cœur immaculé de Marie, eh bien, c'est la crèche. Donc notre Seigneur Jésus-Christ commence sa vie d'immolation dès le sein maternel. Et dès qu'il sort miraculeusement du sein maternel, sans violer la virginité de notre Sainte Vierge Marie, notre Sainte Vierge Marie va envelopper son fils bien-aimé de l'ange et va le poser dans sa crèche, dans la crèche, sur la paille de la crèche. Et bien cette paille de la crèche représente évidemment le deuxième autel. Les pères de l'Église font remarquer que la crèche est en bois, parce que ce bois de la crèche représente le bois du sacrifice de la croix. Donc de même qu'il y a un lien entre les langes utilisés par la Sainte Vierge Marie pour envelopper son fils premier-né au moment du jour de la naissance de notre Seigneur à Noël, de la même façon, il y a un lien entre ces langes et le linceur de Turin qui va recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ après la descente de la croix. De la même façon qu'il y a un lien entre le bois de la croix et le bois de la crèche. C'est la continuation de la vie de sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut méditer là-dessus. Donc on voit toute une série d'autels sur lesquels va passer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il va passer le premier autel, c'est encore une fois le cœur immaculé de Marie, puis le bois de la crèche, et puis le dernier autel ici-bas sur la terre, ça va être l'autel de la croix, puis l'autel même du tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ avant sa résurrection glorieuse. Donc il est venu sur terre afin de vous conduire au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ, sachant que l'homme par lui-même ne pouvait pas rattraper ses bêtises, puisque dans le péché il y a quelque chose d'infini, bien l'homme ne pouvant rattraper ses propres bêtises, Dieu a dû choisir un acte infini en quelque sorte pour rattraper l'infinité du péché. Et puisque le péché est infini, bien, il fallait que le sacrificateur soit infini, la victime du sacrifice soit également infinie, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui en tant que Dieu est infini. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va unir avec sa nature divine qui est infinie, une nature humaine laquelle est finie. Pour une fois, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas toujours été homme, il a commencé à être homme le jour de l'incarnation, mais il va unir les deux choses pour justement rattraper les conséquences du péché. D'autres phrases de saint Ambroise, magnifique: sa pauvreté devient donc ma richesse et la faiblesse de mon Dieu devient ma force. Donc cette pauvreté, notre Seigneur Jésus-Christ qui accepte de naître comme le dernier des esclaves dans le froid de la grotte de Bethléem, devient ma richesse, parce que cette pauvreté me rend, si vous voulez, tout ce que j'ai perdu. Donc j'étais pauvre dans le sens que j'avais tout perdu, j'avais perdu tout ce que le Dieu avait donné à Adam et Ève, et par son incarnation, Dieu va rendre cette richesse à l'homme. Et la faiblesse de Dieu devient ma force. Donc Dieu qui apparaît avec tous les signes de la faiblesse humaine, dépendant totalement des soins de notre Sainte Vierge Marie, va rendre à l'homme sa force qu'il avait perdue par le péché originel. Donc Dieu a voulu connaître l'indigence pour pouvoir donner à tous avec plus d'abondance. L'abondance est l'abondance de la grâce. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ donne, il donne au maximum, il ne donne pas simplement un petit peu, il donne tout, et il donne tellement tout qu'il donne, il se donne lui-même. Il n'y a pas de sacrifice plus grand que donner sa vie pour ceux qu'on aime, et c'est ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les vagissements de cet enfant obtiennent mon pardon et ses larmes lavent mes souillures. Donc notre Seigneur Jésus-Christ devient tout petit pour que l'homme puisse devenir grand. Et par les vagissements de l'enfant, si vous voulez, les vagissements de l'enfant sont comme des supplications que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité va répandre devant au pied du trône de la première personne de la Sainte Trinité, afin que ces vagissements lavent les souillures du péché. Beaucoup ces phrases des pères pleines de poésie: les vagissements de cet enfant obtiennent mon pardon et ses larmes lavent mes souillures. Autre image de saint Ambroise, je dois donc plus au Seigneur Jésus à ses humiliations par lesquelles vous m'avez racheté qu'à ses œuvres par lesquelles vous m'avez créé. Rappelez-vous ce que disent les pères, que le pardon des péchés, imaginez notre Seigneur Dieu qui par son prêtre pardonne aux pécheurs repentants, par l'absolution d'un simple péché mortel est en soi quelque chose de plus grand que la création du monde entier. L'absolution d'un simple péché mortel apporte plus de gloire à Dieu au ciel que la création du ciel et de la terre. Donc ces humiliations par lesquelles vous m'avez racheté sont plus grandes que ces œuvres par lesquelles vous m'avez créé. Donc le mystère de l'incarnation et de la rédemption est en soi, sont en soi quelque chose de plus grand que le mystère de la création du monde entier, ex nihilo, à partir de rien, par notre Seigneur Jésus-Christ, par Dieu le Père. Car que m'aurait servi de naître si je n'avais pas été, si je n'avais été racheté? Donc Dieu, voyant que l'homme se damne, décide dans son éternité de racheter l'homme en unissant sa divinité avec notre humanité. Dernier point de saint Ambroise, la mère à laquelle le Christ obéissait, il la gouvernait par sa puissance. Celle dont il suçait le lait, il la nourrissait de la vérité. Donc on pense que cet enfant qui ne pouvait pas survivre sans le lait de sa mère est le créateur de cette mère. Dieu est nourri par celle qu'il a créée. Dieu infiniment grand est nourri par quelqu'un qui a l'humanité qui est en soi infiniment petite devant la grandeur de la divinité. Oui, ce sont des textes splendides qui doivent être médités. Médités, je répète ces textes, je vais les relire en bas de la page 8. Jésus s'est fait petit enfant afin de faire de vous un homme parfait. Il a été enveloppé de l'ange afin que vous fussiez délivré des liens de la mort. Il s'est mis dans la crèche afin de pouvoir vous amener à ses autels. Il est venu sur terre afin de vous conduire au ciel. Sa pauvreté devient donc ma richesse et la faiblesse de mon Dieu devient ma force. Il a voulu connaître l'indigence pour pouvoir donner à tous avec plus d'abondance. Les vagissements de cet enfant obtiennent mon pardon et ses larmes lavent mes souillures. Je dois donc plus au Seigneur Jésus à ses humiliations par lesquelles vous m'avez racheté qu'à ses œuvres par lesquelles vous m'avez créé. Ce que m'aurait servi de naître, car que m'aurait servi de naître si je n'avais été racheté? La mère à laquelle il obéissait, il la gouvernait par sa puissance, celle dont il suçait le lait, il la nourrissait de la vérité. Et en haut de la page 9, sur le polycopier, il y a cette phrase magnifique de Saint Léon qu'on trouve au matin de Noël. Dépouillons donc le vieil homme avec tous ses actes, ayant participé à la naissance du Christ, renonçons aux œuvres de la chair, reconnaissez aux chrétiens votre dignité, devenez participants à la nature divine, craignez de revenir par une vie indigne à la bassesse de votre première condition. Souvenez-vous de la noblesse de votre chef, de la noblesse du corps dont vous êtes membre. Que la race élue, la race royale, réponde à la dignité de sa nouvelle naissance, qu'elle aime tout ce qu'aime son père et que jamais elle ne se mette en désaccord avec son auteur. Saint Jean Chrysostome a une phrase semblable, voilà ce qu'il dit. Ne nous laissons donc pas aller à la torpeur après avoir été jugés dignes de tant de charité et d'honneur. Vous voyez, donc il faut se rappeler d'où on vient et où on va, d'où nous venons et où nous sommes supposés aller, où le bon Dieu nous attend. Vous voyez, reconnais donc aux chrétiens ta dignité, c'est ça qu'il faut comprendre. Notre dignité vient du fait que nous sommes devenus participants de la nature divine. Et c'est ça la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, la véritable dignité de l'homme, dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée aujourd'hui dans le monde moderne, on n'arrête pas de nous parler de la dignité de l'homme. Les modernes n'ont pas compris que la dignité de l'homme, c'est précisément d'être devenu participant de la nature divine. Donc la dignité de l'homme, elle est représentée par son union à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'union à notre Seigneur Jésus-Christ de l'homme qui donne à l'homme sa véritable dignité. Donc si vous enlevez Dieu de la nature humaine, Si vous enlevez la grâce de la nature humaine, si vous enlevez la foi de la nature de l'homme, de l'intelligence humaine, il ne reste plus rien, vous enlevez en fait à l'homme sa véritable dignité. Donc le monde moderne, la révolution n'arrête pas de nous parler de la dignité de l'homme, en coupant l'homme de Dieu sans se rendre compte, tellement ils sont bêtes, en se coupant de Dieu, l'homme se coupe de sa dignité, donc devient un esclave. Soi-disant, l'Église catholique rend l'homme esclave, et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. L'Église catholique rend à l'homme sa véritable dignité, donc lui coupe, le coupe des chaînes de l'esclavage. Quelles sont les chaînes d'esclaves contre lesquelles nous devons lutter et qu'il nous faut couper? C'est les trois chaînes des concupiscences, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie. Donc celui qui est vraiment libre, c'est celui qui n'est pas sous l'esclavage de ces trois concupiscences. Donc l'homme qui est le plus libre, c'est celui qui est sous les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, parce que étant sous les trois vœux, il se protège, il a coupé en quelque sorte les chaînes des trois esclavages. Par l'obéissance, il va couper la chaîne de l'orgueil. Par la chasteté, il va couper la chaîne de la concupiscence de la chair. Et par la pauvreté, il va couper la chaîne de la concupiscence des yeux. Je vous donne aussi un autre texte de saint Augustin. Ces textes magnifiques viennent des commentaires des pères de l'Église que nous avons au bréviaire pendant l'octave du Très Saint Sacrement. Voilà un texte ici, encore un texte de saint Jean Chrysostome qui est une merveille. Écoutez bien. Lorsque nous serons sur le point de prononcer une parole inconvenante, ou que nous nous sentirons emportés soit par la colère, soit par tout autre vice semblable, considérons de quel bien nous avons été faits dignes, et que cette réflexion réprime nos mouvements déraisonnables. Aussi, dit saint Jean Chrysostome, aussi souvent donc que nous participons à ce corps, le corps du Christ, aussi souvent que nous goûtons ce sang du Christ, rappelons-nous que celui qui pénètre en nous est le même que les anges adorent, assis au plus haut des cieux et à la droite invisible du Père. Malheur à moi, que de voie pour aller au salut. Il nous a fait son corps, il nous a communiqué son corps, et rien de tout cela ne nous détourne du mal. Donc considérons, dit saint, encore une fois saint Jean Chrysostome, de quel bien nous avons été faits dignes. Donc lorsque nous sommes exposés à la tentation, lorsque nous sommes exposés au désespoir, au péché contre la foi, contre l'espérance, contre la charité, contre la pureté surtout, ben il nous faut penser au bien. Considérer de quel bien nous avons été faits dignes. C'est là où il faut se rappeler qu'on est des êtres d'éternité. Il faut regarder vers le ciel où le bon Dieu nous attend. Ici un très beau texte de saint Augustin. Ça, vous trouvez ces textes le samedi dans les commentaires des pères de l'Église, du samedi dans l'octave du Saint-Sacrement. Voilà ce que dit saint Augustin. Un chrétien ne doit rien tant redouter que d'être séparé du corps du Christ. S'il se sépare du corps du Christ, il n'est plus du nombre de ses membres, et s'il ne fait plus partie de ses membres, il n'est plus vivifié par son esprit. Comme un sarment de vigne qui est coupé du tronc, séparé du tronc par le sécateur. Une fois qu'il est coupé, il ne peut plus recevoir la vie du tronc, la sève qui va le vivifier, et donc un sarment qui est coupé du tronc est incapable de donner des grappes de raisin, et donc va devenir stérile. Et saint Augustin, je vous donne la suite de ce texte de saint Augustin. Celui qui n'a point l'esprit du Christ, celui-là n'est point à lui. C'est donc l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, or les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie, que signifie cela? Qu'il faut les entendre dans un sens spirituel. Les as-tu entendues spirituellement? Elles sont esprit et vie. Les as-tu comprises de manière charnelle? Elles sont encore esprit et vie, mais elles ne le sont pas pour toi. Et donc il nous faut, mes bien chers frères, penser à la dignité extraordinaire de l'homme, mais dignité qui vient de cette union à notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, si on coupe notre Seigneur Jésus-Christ, si on coupe l'homme plutôt de son Créateur, son Rédempteur, on coupe l'homme de sa dignité. La dignité vient de Dieu. Et s'il a expliqué ça aux républicains d'aujourd'hui, ils sont incompréhensibles, des choses incompréhensibles pour eux. Ils n'arrêtent pas de parler de la dignité de l'homme, ils ne se rendent même plus compte que, avec cette fausse unité de la République laïque française, entre autres, eh bien, on replace l'homme dans un état d'esclavage, d'esclavage dans lequel il était auparavant. Donc on nous parle à longueur de journée des droits de l'homme, de la dignité de l'homme, sans même comprendre que la dignité de l'homme telle qu'elle est vue par la République française actuelle athée, détruit la dignité même de l'homme. On parle de dignité de l'homme à longueur de journée, sans se rendre compte qu'en coupant l'homme de Dieu, encore une fois, on coupe l'homme de sa véritable dignité. Et donc qu'est-ce qui se passe avec les républiques laïques françaises? L'homme retombe dans son esclavage. On entend le même genre de raisonnement complètement faux de la part des féministes modernes. Les féministes, les femmes, il n'y a rien de pire qu'une féministe pour moi. Les féministes modernes, les femmes féministes, ne se rendent même plus compte, tellement elles sont devenues bêtes, elles ne se rendent même plus compte que par leur féminisme, elles détruisent leur féminité. Il n'y a rien de plus anti-féminine qu'une féministe. Contrairement à ce que laisse croire le terme utilisé. Une féministe est anti-femme par elle-même. Elle détruit sa propre féminité. C'est pour cela que le monde moderne va remplacer le mot féminine par le mot moderne sexy. Parce que, justement, ce mot qui est abominable en soi, que j'aime pas du tout, mais qui dit bien ce que ça veut dire, par ce mot sexy, on détruit complètement la féminité de la femme et donc on détruit sa dignité. Qui a rendu la dignité à la femme? La femme, dans le monde des Grecs, des Romains, était une esclave. L'époux est pratiquement droit de vie et de mort sur son épouse. Qui a rendu la dignité à la femme? L'Église, c'est l'Église catholique qui a rendu la dignité à la femme, surtout par la dévotion à la Sainte Vierge Marie et par la chevalerie. Eh bien, dans le monde moderne est tellement bête qu'il a détruit complètement l'esprit de chevalerie, bien sûr, depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, malheureusement, et détruit aussi la dévotion à la Sainte Vierge Marie. Et en ce faisant, elle a rabaissé la femme et l'a ramenée à sa condition d'esclave dans laquelle elle était avant notre Seigneur Jésus-Christ. Ici un texte, page 9 dans le Polycopier, un texte magnifique de Yves de Chartres. « Si un rayon de soleil entrant dans un vase de cristal ou en sortant ne le brise pas, à plus forte raison, l'entrée et la sortie de celui qui est le vrai éternel soleil ne causèrent en Marie aucune lésion. » Ce soleil, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc j'aime beaucoup cette image très, très fréquente chez les pères, notre Seigneur Jésus-Christ qui sort du sein de la très Sainte Vierge Marie comme un rayon de soleil passe par une pièce de cristal, une pièce de verre. La bienheureuse Vierge Marie, dit Saint Thomas d'Aquin, par le fait d'être mère de Dieu, reçoit du bien infini qui est Dieu une dignité infinie. Pour ça que les pères de l'Église vont jusqu'à dire que la très Sainte Vierge Marie touche à la divinité. Elle n'est pas déesse, attention, mais elle touche à la divinité. Parce qu'il y a un lien tellement fort entre la très Sainte Vierge Marie, le cœur immaculé de Marie et le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, que, si vous voulez, la divinité va prendre littéralement la très Sainte Vierge Marie sous sa protection. L'Esprit Saint vous couvrira de son ombre, a dit l'ange Gabriel à la très Sainte Vierge Marie. Donc Notre-Dame est le pont par lequel Dieu vient vers les hommes. Elle est l'instrument qui tissait la trame indissoluble de l'union des deux natures. De même, si vous voulez, de la même façon que pour faire un tissu, les fils de coton ou de laine sont mélangés les uns les autres, de la même façon, la nature humaine et la nature divine vont être étroitement imbriquées dans notre Seigneur Jésus-Christ, et sans se détruire mutuellement. C'est-à-dire, il ne faut pas, encore une fois, je vous l'ai déjà dit souvent, mais ça c'est très important à comprendre, l'union de l'humanité et la divinité entre notre Seigneur Jésus-Christ ne détruit ni l'une ni l'autre. Il ne faut pas imaginer notre Seigneur Jésus-Christ comme une espèce de mélange, une espèce d'être hybride à la fois humain et divin, mi-homme, mi-dieu. Non, il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. L'Esprit Saint accomplit cette œuvre divine, la vertu du Très-Haut en protégeant le mystère. L'antique toison d'Adam fournit la laine, la chair immaculée de la Vierge Marie fut la trame, la grâce dont elle remplit en fut le nœud, et enfin le Verbe incarné, l'artisan immortel. C'est tout le mystère de l'incarnation qui consiste à unir de façon extraordinaire l'union, la divinité et l'humanité dans la personne de l'enfant Jésus. Cette personne étant à la fois Dieu et homme, la Très-Sainte Vierge Marie est mère d'une personne qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc la Très-Sainte Vierge Marie est véritablement Théotokos, mère de Dieu. Donc Saint Fulgence dit que Marie est la fenêtre du ciel, c'est beau ces textes, elle est le pont, elle est l'instrument où fut tissée la trame indissoluble, et elle est la fenêtre du ciel, car c'est par elle que Dieu a répandu sur tous les siècles la lumière d'en haut. Saint Bernard compare aussi la Très-Sainte Vierge Marie à l'aqueduc qui amène l'eau de la source à la ville. Donc l'eau passe de la source à la ville pour alimenter la ville. Eh bien cette source, c'est la Sainte Trinité, et donc la Très-Sainte Vierge Marie est le pont qui va unir la divinité à l'humanité. Elle est l'échelle du ciel, encore une image, car par elle Dieu est descendu sur terre afin que par elle les hommes méritassent de remonter au ciel. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament l'échelle de Jacob. Jacob qui dans un songe voit une échelle avec les anges qui montent et qui descendent par cette échelle qui fait toucher les cieux et la terre. Eh bien cette échelle de Jacob représente notre Seigneur Jésus-Christ mais représente aussi la Très Sainte Vierge Marie qui est l'échelle qui va unir le ciel et la terre. Vous avez ici, j'ai mis ce texte magnifique de Saint Bernard, qui est très connu. Page 9, au milieu de la page. Si les vents des tentations s'élèvent, et si vous vous trouvez au milieu des écueils de la tribulation, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si vous êtes ballotté par les flots soulevés de la superbe, de l'ambition, de la jalousie, de la détraction, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si la colère, l'avarice, les voluptés charnelles font chavirer l'esquive de notre raison, regardez Marie, invoquez Marie. Si troublé par la grandeur de vos fautes, humilié par les souillures de votre conscience, troublé par la crainte du jugement, vous sentez descendre dans l'abîme de la tristesse et du désespoir, pensez à Marie. Je conseille beaucoup à ceux qui ont tendance à se décourager à écrire, réécrire ce texte splendide qui est très connu de Saint Bernard. Qui tirait justement, je crois, de son sermon qu'on appelle le sermon de l'aqueduc, parce que la Très-Sainte Vierge Marie est l'aqueduc qui amène l'eau du ciel à la terre. La grâce passe pas à la Très-Sainte Vierge Marie du ciel à la terre comme l'eau passe entre les parois de l'aqueduc pour amener l'eau vivifiante à la ville qui meurt de soif. Donc dans les moments difficiles, dans les moments de désolation, eh bien c'est ce qu'il faut faire, passer par la Très-Sainte Vierge Marie. Moment difficile, moment de désolation, regardons l'étoile, invoquons Marie. Josué, autre exemple, fit circoncire le peuple après le passage du Jourdain. Jésus aussi nous fait traverser le Jourdain en nous faisant participer à sa mort. Et après ce passage, il nous fait participer par la vertu de l'Esprit Saint à une circoncision qui purifie l'âme. Vous voyez, on trouve la même image dans la traversée de la mer Rouge. Les Hébreux qui vont traverser la mer Rouge à pied sec, ça représente le baptême. Et Josué qui fait traverser le peuple, tout le peuple juif qui va traverser le Jourdain à pied sec, bien représente justement le passage de cette terre au ciel. La terre promise représentant le ciel, ce passage de la terre au ciel qui est provoqué par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Donc après ce passage, il nous fait participer par la vertu de l'Esprit Saint, une circoncision qui purifie l'âme. Donc la circoncision matérielle des Juifs était le symbole de la circoncision spirituelle. Une circoncision purement matérielle ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée d'une circoncision spirituelle. Et donc les pères expliquent qu'il y a trois choses dans la circoncision. Elle distinguait les enfants d'Abraham des autres peuples. Elle était la figure du baptême qui nous fait entrer au nombre des enfants de Dieu. Elle figurait la vie nouvelle de celui qui a reçu le baptême, qui doit, avec le glaive tranchant de la foi et de la mortification chrétienne, délivrer son cœur de toutes les passions, de tous les troubles des sens. Pour cela que La circoncision était faite sur l'organe de la reproduction, justement pour marquer qu'il fallait soumettre tous ses sens à la vie divine. Verset 28 du chapitre 1 de Saint Luc. L'ange étant entré auprès de la Vierge, lui dit « Je vous salue pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. » Donc Ève fut non pas la mère de la vie, mais de la mort, car tous les enfants, tous ses enfants, à cause de son péché, ont trouvé la mort. Marie, au contraire, est la véritable Ève, elle est la nouvelle Ève qui devient mère de la vie, de la grâce et de la gloire. Il y a de même que Ève, la première Ève, a amené la mort dans le monde, de la même façon, la nouvelle Ève va amener la vie au monde. De même que le premier Adam a amené la mort au monde, le nouvel Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, le jour de Pâques, va ramener la vie au monde. C'est un texte des Pères qui vont jusqu'à dire que Dieu aima plus Notre-Dame que toute l'Église, tous les hommes et tous les anges pris ensemble. C'est une faute d'orthographe qu'il faut que je corrige sur le polycopier. Donc Dieu aima plus Notre-Dame que toute l'Église, tous les hommes et les anges pris ensemble. Et les protestants n'arrivent pas à comprendre ça. Ils ne comprennent pas l'importance de la dévotion à la Sainte Vierge Marie. C'est pour ça que je ne peux pas baptiser. Je ne baptiserai jamais un protestant qui vient faire la fête s'il n'a pas une grande dévotion envers la Sainte Vierge Marie. J'insiste beaucoup sur cette dévotion nécessaire à la Sainte Vierge Marie pour tous les protestants avant de les baptiser. S'il n'a pas cette dévotion à la Sainte Vierge Marie, je refuse de le baptiser. Donc la Vierge aimait dès le premier instant Dieu avec un tel amour qu'elle en gagna un mérite supérieur à celui des anges. À cause du fait qu'elle est devenue mère de Dieu. N'oubliez pas que l'épreuve des anges a été justement de devoir accepter l'autorité de la très sainte Vierge Marie, c'est-à-dire l'autorité d'une personne d'une nature inférieure à la nature angélique. La très sainte Vierge Marie n'a pas la nature angélique. Elle a la nature humaine qui est en soi une nature inférieure à celle des anges. Bien, les anges ont dû accepter l'autorité de la Sainte Vierge Marie, elle est reine des anges. Donc, la supérieure de tous les anges, c'est, après notre Seigneur Jésus-Christ, après Dieu, bien sûr, c'est la Sainte Vierge Marie. Donc, les anges vont devoir accepter d'avoir pour reine quelqu'un qui est d'une nature inférieure à la leur. Et c'est cette humiliation, cet acte d'humilité que Lucifer a rejeté, a refusé d'accepter, ce qui lui a coûté son paradis, à lui et à tous ceux qui l'ont suivi. Donc Dieu déclara dans une révélation à Sainte Brigitte que les trois saints pour lesquels il avait le plus d'amour étaient sa Sainte Mère, Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine. Sans doute pour cela que ces trois saints, enfin Sainte Vierge Marie bien sûr, mais aussi Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine sont les saints les plus vénérés du Moyen-Âge. Le nombre d'églises consacrées à la Sainte Vierge Marie est très très grand, surtout en France, dans tous les pays en fait d'Europe, surtout en France, en Espagne, en Italie. Mais on voit aussi une dévotion extraordinaire des gens du Moyen-Âge envers Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine. Saint Jean-Baptiste parce qu'il est, la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et Sainte Marie-Madeleine parce que le pécheur se reconnaît en Sainte Marie-Madeleine à cause du fait qu'elle est une pécheresse convertie. Verset 29, Marie, ayant entendu l'ange, fut troublée de ses paroles. Elle se demandait quelle pouvait être cette salutation. Non. Les pères font remarquer que ce trouble de Marie est une marque de modestie, car elle ne voulait pas être seule avec un inconnu, surtout avec un homme, même si c'est un ange, ici. Elle est troublée, mais non perturbée. Elle ne perd pas sa paix intérieure, attention. C'est la vertu de prudence qui agit ici. Elle invite à la fois la légèreté d'Ève et l'obstination de Zacharie. C'est par une femme et un homme que le péché et la douleur sont entrés dans le monde. C'est aussi par une femme et par un homme que la bénédiction et la joie sont appelées et répandues sur toutes les créatures, sur toute créature. Donc c'est pour cela que la vertu de prudence qui est de façon extraordinaire dans le cœur de la Sainte Vierge Marie, puisqu'elle est pleine de grâce, n'oublions pas, cette vertu de prudence va lui faire d'abord contrôler que l'acceptation du mystère de l'incarnation en son sein ne va pas détruire sa virginité. C'est pour ça qu'elle va devoir poser cette question à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? Et l'ange la rassure en lui disant, l'Esprit Saint vous couvrira de son ombre. Alors elle comprend qu'elle va devenir mère de Dieu sans perdre sa virginité. À ce moment-là, elle accepte. Fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Notre Seigneur Jésus-Marie est vraiment mère de Dieu à ce moment-là, devient à ce moment-là mère de Dieu, dès qu'elle a compris qu'elle est à la fois vierge et mère. Une vierge enfantera, c'était la prophétie. Une vierge enfantera. Versets 30 à 32 du chapitre 1 de Saint Luc, page 10, sur le polycopié. L'ange lui dit, ne craignez point Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous recevrez dans votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Quel programme, voyez, quel programme. Et malgré cette élévation extraordinaire de notre Sainte Vierge Marie, qui est élevée jusqu'à toucher la divinité, comme disaient les pères, notre Sainte Vierge Marie va garder son extraordinaire humilité. Je suis la servante du Seigneur. Oui, il faut souvent méditer. Lorsque les gens me disent, vous savez, je ne sais pas sur quoi méditer, je leur dis souvent, méditez sur le « Je vous salue Marie ». Sur chaque mot du « Je vous salue Marie ». Vous méditez tout simplement sur les paroles de l'Angélus, qui est un résumé de toute l'annonce faite à Marie. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie, elle est conçue du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qui me soit fait en moi selon votre parole, et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Vous avez tout là. Vous pouvez méditer aussi sur la très belle prière qui suit. Au Dieu qui avait déjà envoyé votre esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Carrément, la prière de l'Angélus lui-même. Répandez, Seigneur, votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de Jésus-Christ, votre Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous pouvez mettre côte à côte, si vous voulez, la prière de l'Angélus et la prière au Saint-Esprit qu'on dit en début de chaque conférence pendant les retraites. Donc les pères de l'Église donnent le sens spirituel de ce passage. Voilà ce qu'ils disent, il en est peu qui, comme Marie, enfantent le Verbe qu'ils ont conçu par la grâce de l'Esprit-Saint. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que une âme dans le péché se confesse et reçoit l'absolution sacerdotale, elle enfante de nouveau le Verbe de Dieu. Mystiquement, c'est-à-dire qu'elle reçoit de nouveau la grâce du bon Dieu qui rentre de nouveau dans son âme. Donc à chaque fois que je commets une faute grave, je perds la grâce du bon Dieu, mais à chaque fois que je fais une bonne confession, je récupère cette grâce du bon Dieu perdue par le péché. Donc le miracle, si vous voulez, parce que c'en est un, le miracle du pardon des péchés symbolise aussi le miracle de l'incarnation. Une certaine forme d'incarnation, si vous voulez, qui va se renouveler dans l'âme qui retrouve l'état de grâce. De la même façon, si vous voulez, que la très sainte Vierge Marie devient mère de Dieu par l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ en son sein au moment de l'incarnation, de la même façon, le pécheur qui se confesse va récupérer cette grâce du bon Dieu qui va venir habiter de nouveau dans son temple. De la même façon, si vous voulez, que notre Seigneur Jésus-Christ va habiter dans ce temple parfait qui est le cœur immaculé de Marie, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ accepte de venir habiter dans mon temple, à savoir mon âme, bien que mon âme soit bien sûr pas aussi belle que celle de notre Sainte Vierge Marie, afin que mon âme devienne le temple du Saint-Esprit. Donc il en est, disent les pères, qui rejettent au dehors le Verbe à peine conçu, qui ne l'enfantent jamais. Et il y en a qui portent Jésus-Christ dans leur sein, mais sans que jamais il arrive à être formé dans leur cœur. Bon. Par exemple, des gens qui vont être baptisés, mais qui vont perdre très vite la grâce du baptême dès l'arrivée de l'âge de raison dans cette âme. Donc, ils rejettent au dehors le Verbe à peine conçu, ils l'enfantent jamais. Il y en a qui portent Jésus-Christ dans leur sein, mais sans que jamais il arrive à être formé dans leur cœur. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas transfigurer la vie de cette personne. C'est une chose d'avoir notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme, mais s'il se contente de rester dans notre âme sans infuser de sa grâce chacune de nos actions dans la vie de tous les jours, c'est un peu une hypocrisie de notre part. Mais on juge le chrétien par sa façon de vivre. faut qu'il vive comme un chrétien. S'il pense comme un chrétien, qu'il vit comme un protestant ou comme un païen, quelque chose qui ne va pas. Donc Jésus veut dire sauveur. On est à la page 10 du polycopié. Comme le soleil qui pénètre tout de ses rayons ne voit pour cela s'obscurcir son éclat, de même le soleil de justice, en prenant un corps très impur dans le sein d'une vierge, ne perd rien de sa pureté. Bien loin de là, il ajoute à la pureté, à la sainteté de sa mère. Hein? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il se donne à nous par sa grâce, ne perd en rien de sa plénitude. Hein? La grâce du bon Dieu vient d'un cœur, du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un cœur infiniment grand. Et donc, même si de cette grâce, le bon Dieu abreuve des millions d'âmes, la grâce sanctifiante qui va nous abreuver ne va en rien diminuer cette réserve de grâce qui est dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le cœur immaculé de Marie va participer à cette naissance éternelle. Le trône de David, dont le Seigneur s'est mis en possession, c'est son royaume immortel. La maison de Jacob sont ceux d'entre les Juifs qui ont cru en lui. Le texte ici, il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Donc c'est le paradis qui est annoncé là. La maison de Jacob sont ceux d'entre les Juifs qui ont cru en lui, en Christ. C'est aussi toute l'Église qui, d'olivier sauvage qu'elle était, a été greffée sur l'olivier franc par le mérite de la foi. Et donc cet enseignement de Saint-Luc va contre les grands hérétiques, si vous voulez, Nestorius, les Manichéens et Valentin. Donc selon Nestorius, Notre-Dame n'est pas mère de Dieu parce qu'elle n'est pas mère de la divinité. Donc Nestorius prétendait que l'homme seul est né de la Vierge Marie. L'ange proclame fils du Très-Haut, celui-là même qu'il déclare être fils de Dieu. Il démontre ainsi qu'en Jésus-Christ, il n'y a qu'une personne en deux natures. Donc les Nestoriens, le Nestorianisme, va prétendre que la Très Sainte Vierge Marie n'est pas mère de Dieu. Donc Nestorius disait que la Très Sainte Vierge Marie n'était mère que de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas mère de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, les deux sont unis dans la personne du Christ. Donc, puisque la Très Sainte Vierge Marie a mis au monde la personne du Christ, elle est réellement mère de Dieu. Le nestorianisme existe toujours. L'église d'Arménie, par exemple, il y a une église arménienne catholique, mais il y a aussi une église arménienne hérétique. Et justement, ils sont tombés dans le nestorianisme. Vous avez les manichéens aussi. Manichéens, c'est les cathares, l'hérésie albigeoise, c'est du manichéisme, qui disent que le Christ n'avait pas pris une véritable chair de la Vierge, mais que son corps n'était qu'apparent. Ce sont les docétistes qui enseignaient aussi ça. Donc, ils nient le mystère de l'incarnation. Selon Valentin, un autre hérétique, le Christ a pris sa chair au ciel, et il est passé par la Très Sainte Vierge Marie comme l'eau passe par un canal. Alors, attention! Il faut bien reprendre l'expression des pères. Notre Seigneur Jésus-Christ a quitté le sein maternel au moment de la naissance, le passage à l'extérieur du sein maternel le jour de Noël, comme la lumière passe à une plaque de verre, si vous voulez, j'ai déjà expliqué, mais l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ vient réellement de la Très Sainte Vierge Marie. Elle est mère de l'humanité du Christ. Notre-Dame, donc, disent les pères, a plu à Dieu le Père par sa virginité angélique, au Fils par sa profonde humilité qu'il attire en son sein, et le Saint-Esprit par la promptitude de son obéissance qu'il y obtient la plénitude de ses grâces. Donc, à cause de son ardente charité, elle a mérité ex congruo l'incarnation. Donc ex congruo, séparé de ex condigno. C'est-à-dire, elle a mérité, de par un don gratuit de Dieu, non pas comme quelque chose de dû, mais comme un don gratuit de Dieu, le mystère de l'incarnation. Pourquoi? Parce que la Sainte Vierge Marie, elle est mère de Dieu, mais elle n'est pas Dieu, elle n'est pas déesse. Donc elle n'a pas mérité l'incarnation en tant que chose qui lui était due, mais en tant que grâce, un signe qu'elle a reçu de Dieu. Alors nous allons arrêter là, parce que j'essaie de bloquer mes cours, limiter mes cours à la durée d'une heure. Et si Dieu veut, nous continuerons mercredi prochain. Donc je vais terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.